Selon les professionnels de la santé, le TDAH se décrit comme un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par une difficulté persistante à moduler l'attention, qui entraîne des erreurs d'inattention, une difficulté à maintenir l'attention de façon soutenue, à résister aux stimuli distracteurs, à organiser, débuter et terminer une tâche, des oublis et une tendance à égarer ou perdre ses objets. Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je reçois Salomé Deconac, qui est TDAH, évidemment, et maman de deux enfants avec un TDAH. Salomé, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui.
Ben, merci de me recevoir. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté des écouteurs.
Oui, c'est ça. Tu me disais que tu écoutais le podcast, puis là, maintenant tu es dans un podcast.
Oui, en effet.
Ben, j'adore. Donc, aujourd'hui, tu es ici pour parler, bien évidemment, de ta vie avec le TDAH et mère de deux enfants qui ont aussi un TDAH. Donc, ça doit faire beaucoup d'énergie dans une maison. Oui. Mais je voulais aussi aborder le sujet du congé de maternité lorsqu'on a un TDAH parce que c'est un sujet qui m'a été grandement demandé. Et comme je te disais un peu tantôt, sans y avoir, moi, personnellement, jamais réellement penser, c'est vrai que ça doit changer la routine et de mettre sa vie actuelle, tu sais, la vie qu'on connaît sur pause, ça doit être toute une épreuve pour tout le monde, mais avec un TDAH, on sait que ça roule beaucoup dans notre tête, donc j'ai bien hâte d'en entendre un peu plus de ton côté. Donc, merci beaucoup de participer à cet épisode-là aujourd'hui.
Eh bien, merci. Alors, donc,
Oui, vas-y.
Oui, du coup, j'ai deux enfants, dont un TDAH certain Diag et l'autre pas encore, mais on pense très fort que ce sera la même chose.
Ouais.
Et oui, le congé de maternité, ça a été vraiment très, très dur.
Okay. On va en parler en fait plus en détail, mais avant, je me demandais, peux-tu nous parler, toi, de ton diagnostic? Quand tu as su que tu étais TDAH, comment ça s'est passé, etc.?
Alors, moi, mon diagnostic, il est très récent, en fait. J'ai été diagnostiquée très tard. J'ai été diagnostiquée à 29 ans, okay. Justement, pendant mon congé de maternité.
Oh, mon Dieu.
Et je me suis toujours sentie très différente par rapport aux autres, etc. Quand j'avais 19 ans, on m'a diagnostiqué la douance dans un premier temps. Donc, ça a expliqué pas mal de traits, pas mal de choses à ce moment-là. Et puis, mais je continue à me dire que il y avait quelque chose en plus qui allait pas et ça s'est vraiment prouvé pendant mon congé maternité où je recevais à la maison aussi à une jeune fille au pair américaine qui elle avait plus de connaissances sur le TDAH et au fil de discussions j'ai commencé à regarder sur les symptômes, etc. Et c'est vrai que ça cochait énormément de cases. Et quand je me suis retrouvée chez le psychiatre parce que j'étais en total burn-out et dépression pendant mon congé de maternité, il a été question du Diag et effectivement, il s'avérait qu'il y avait bien le TDAH là-dessous. Donc voilà.
Oh, donc, c'était quand même justement pour ton premier congé de maternité une grosse... grosse épreuve, là.
Le deuxième congé.
Wow, donc, tu sais, c'est peut-être justement le changement de routine qui a fait que comme ton corps, ton cerveau, t'es plus capable, entre guillemets, là.
C'est ça, c'est clairement ça.
Puis là, en plus, étant enceinte, bien, c'est sûr que tu pouvais pas te tourner vers la médication non plus, là, pour essayer de voir si ça pouvait aider. Donc, pour tes enfants, tu me disais qu'il y en a un qui est encore en voie de diagnostic, que ça s'en vient. Pour celui qui est diagnostiqué, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était très jeune? Est-ce que comme tu avais toi déjà ton diagnostic, ça a été rapide?
Alors, ça a vraiment fait suite à mon diagnostic puisqu'on avait des doutes sur le fait de l'hyperactivité parce que mon compagnon est hyperactif, est TDAH.
Okay. Et, oh mon Dieu, donc tout le monde.
Tout le monde, c'est la famille de TDAH. Et oui, on s'est vite posé des questions par rapport à son comportement parce qu'il était très très actif, toujours dans la recherche du mouvement, toujours en train de se mettre en danger, de chercher la sensorialité, de tout mettre à la bouche alors qu'il avait 5 ans. Donc on s'est dit, non, il y a quelque chose. Et juste après mon diagnostic, là, je me suis dit, bon, quand on connaît le côté génétique du TDAH, il y a forcément de ça, et j'ai pris le taureau par les cornes, et oui, le diagnostic a été posé.
C'est sûr qu'avec deux parents TDAH, les chances commencent à être élevées que les enfants le soient. Là.
C'est ça.
C'est très fort dans la génétique. Là.
C'est ça. Et notre deuxième garçon, il a 2 ans et demi, donc c'est encore tôt pour faire la moindre chose ou imaginez le moindre diagnostic, mais ayant deux parents TDAH et ayant oui et un frère et ayant des sensory issues, on se doute bien que
j'imagine aussi voit. Que même si 2 ans et demi c'est jeune, vous voyez quand même quelques signes précurseurs que vous avez peut-être vus chez votre plus vieux aussi là. À 2 ans et demi justement, les enfants commencent à prendre un peu plus de personnalité, à bouger plus, donc j'imagine que ça se voit quand même.
C'est ça. Tout c'est dans une façon totalement différente. Après, on sait que chaque TDAH est différent, mais
100%.
On voit certains traits qui ressortent.
Similitude, oui. Il y a quand même, c'est ça, même comme tu dis, tout le monde le vit différent puis l'extériorise différemment, mais ça reste qu'il y a quand même certains signes qui, normalement, on les retrouve chez la plupart des TDAH. Là. Puis comment ça se passe? Puis là, ça fait combien de temps que ton plus vieux est diagnostiqué?
Ça fait vraiment quelques mois, c'est très très récent. Pour le moment, il y a pas grand chose de mise en place par rapport à ce diagnostic. On est suivi par ce qu'on appelle ici en France le PCO, qui gère les troubles neurodéveloppementaux et qui prévoit un accompagnement pluridisciplinaire. Donc on attend leur retour pour avoir les rendez-vous différents avec l'ergothérapeute et
pour voir quelle stratégie mettre en place.
Exactement.
Je suis curieuse, justement, mais je ne l'ai pas mentionné au début, peut-être les gens l'ont entendu avec ton accent, mais tu es en France. Oui. Comment ça se passe, le diagnostic en France? Je suis sûre que c'est très différent du Canada. Tu sais, au Canada, c'est seulement au privé, c'est super compliqué, c'est long, c'est cher. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe de votre côté.
Alors, ici en France, ça dépend où on se trouve en France. Quand on est dans des grandes villes, c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est médical, de toute façon. En région, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment, dans un premier temps, en fait, avoir des connaissances soi-même sur le trouble et commencer à se poser des questions pour pouvoir se diriger par la suite vers des professionnels. Donc pour les enfants, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place et c'est génial puisque parfois les professeurs et les personnels de l'école se rendent compte et font le point avec les parents ou saisissent directement le psychologue scolaire qui peut faire une pré-étude. Et il y a, comme je disais, le PCO qui est dans chaque région et qui permet d'envoyer un dossier après avoir vu son médecin traitant pour faire des tests et passer au diagnostic. Et tout ça, c'est gratuit.
Wow!
Enfin, gratuit. C'est pris en charge par l'assurance maladie.
OK, wow!
Voilà, donc c'est vraiment super.
De notre côté, puis nous, on a une assurance maladie, mais ça, c'est pas pris en charge, qui est quand même... Puis c'est très cher, là, un diagnostic, là, c'est... Puis déjà, là, juste avoir un rendez-vous, c'est 2 ans d'attente, mais un diagnostic, c'est 2000 Canadiens, fait que peut-être, quoi, 1600 euros.
Ah.
Donc, c'est quand même quelque chose.
Oui, non. Il y a le parcours de soins coordonnés qui fait que on a une prise en charge par la sécurité sociale. Et quand t'es adulte, c'est un peu différent. C'est vraiment trouver un psychiatre qui connaît le trouble et y avoir réfléchi ou vraiment être face à quelqu'un qui connaît. Qui connaît ça et pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, les rendez-vous chez un psychiatre, ça dépend vraiment de ta localisation géographique, mais en général, tu as un rendez-vous rapidement et après, eh ben, c'est simplement le temps du diagnostic, donc de tout l'entretien et les questions avec toi, avec des personnes autour de toi, oui. etc. Mais ça se fait, étonnamment, ça s'est fait très rapidement pour moi.
Wow,
et de la même manière, c'est pris en charge par la Sécurité sociale comme une consultation avec un psychiatre et il y a des dépassements parfois d'honoraires qui sont pris en charge par la mutuelle, le cas échéant. Voilà.
Wow! On en apprend plus. Je pensais pas que vous étiez autant couvert. Tant mieux pour vous. C'est vraiment une bonne chose.
Oui.
Vraiment. Puis, si on revient justement un peu à ton congé de maternité, là, tu reçois un diagnostic. T'sais, comment ça s'est passé à l'intérieur de toi? Est-ce que ça t'a permis de dire « Wow, je mets enfin le doigt sur quelque chose puis je me comprends mieux » ou c'était une panoplie de nouvelles questions t'sais, qui se passaient dans ta tête?
Ça a été un petit peu des deux parce que c'est vrai que après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai voulu prendre un congé de maternité puisque après la naissance de mon premier, j'ai pris les 2 mois et demi qui sont obligatoires et je suis vite revenue au travail. Et ça s'est passé très bien au final puisque je suis restée dans mon quotidien, dans ma routine. Et par contre, à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai voulu prendre un congé de maternité plus long pour vivre les choses avec mes enfants, pour l'allaitement, pour plein de choses différentes. Mmh. Et je me suis un peu perdue dedans parce que j'ai voulu tout faire parfaitement et la parentalité, c'était devenu un petit peu mon nouveau hyper-focus du moment.
Mmh.
Et j'ai voulu cocher toutes les cases de l'allaitement à la demande et les nuits et la langue des signes et la diversification menée par l'enfant et faire des petits plats
maison.
Maison et tout et faire tout correctement et tenir ma maison comme s'il y avait un magazine qui allait venir prendre des photos tous les jours. Et il s'est avéré que j'avais un bébé avec des besoins intenses, donc il pouvait jamais être posé, donc je l'avais en porte-bébé tout le temps, toute la journée. Il avait du mal à dormir, il se réveillait toutes les 20 minutes, donc il y a eu la fatigue plus l'overwhelming d'avoir un enfant qui pleure souvent et d'avoir un autre enfant aussi qui avait 3 ans et qui était toujours en demande, puisque à ce moment-là, on ne savait pas, mais TDAH aussi. Et un conjoint qui ne comprenait pas forcément parce que lui-même, non diagnostiqué, et en perte totale de repères et ça a mené petit à petit à un total burn-out et une dépression parce que je savais plus quoi faire, comment, qui j'étais.
Plus de repères.
Exactement. Je donnais tout à tout le monde et j'essayais de remplir ma propre coupe alors que j'étais vide d'avoir rempli la coupe des autres. Donc
quand tu parlais, c'est ça, de ton hyper-focus, puis un peu ce que j'entends en même temps, je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais un peu les TDAH, on est souvent dans l'anxiété de performance. Là, toi, c'était rendu ton anxiété de performance d'être la top mère, la top blonde, tout faire.
C'est ça, exactement. Surtout que du coup, je n'avais pas de revenus, donc c'était mon compagnon qui travaillait beaucoup pour subvenir à nos besoins. Donc, j'avais cette anxiété de performance, de performer comme mère, de performer comme conjointe, de performer à tous les niveaux dans la maison parce que je ramenais pas d'argent. Ouais. Donc, même si c'était pas un sujet entre nous, il y avait quand même inconsciemment cette anxiété de performance, c'est ça.
Mm-hmm.
Plus tout ce qu'on voyait sur les, et ce que je voyais sur les réseaux sociaux, des personnes qui réussissaient à faire ça et moi qui n'y arrivais pas et ça rajoutait encore de l'anxiété.
La comparaison.
Exactement. Et ça a fait un burn-out total vraiment au bout d'un moment.
Oh mon Dieu. Puis là, quand tu as eu c'est ça, ton diagnostic, c'est sûr que ça t'a permis de mettre le doigt un peu sur la chose. Là. Je pense que ça nous fait tous du bien de savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est sûr que tu devais te remettre d'un burn-out. T'sais, par la suite, les mois passés, comment ça s'est passé?
Eh bien, c'est-à-dire que après, il y a notre jeune fille au père qui nous a rejoints. Donc ça a été déjà une bouffée d'air parce que j'ai pu retrouver un peu de liberté de mouvement et j'ai pu respirer un peu plus, etc. Et on s'est liés très fort en amitié, on a beaucoup parlé, et elle étant aussi neuroatypique, on a commencé... C'est ça, tout à fait. On a commencé à parler de trauma, de neuroatypie, parce que moi j'avais été diagnostiquée avec la douance, donc effectivement j'avais ce pied dans l'engrenage de la neurodivergence, mais... plus on parlait, plus effectivement je me voyais dans le TDAH et puis j'ai commencé à écouter ton podcast et d'autres et à me renseigner et plus tu te renseignes et plus il y a des choses qui viennent sur les réseaux par exemple et plus je voyais des choses et je me disais mais ça fait sens oui. Et quand je me suis retrouvée chez le psychiatre pour ma dépression sévère, il m'a dit, enfin, je lui ai dit, il y a peut-être aussi quelque chose à voir du côté de la neuroatypie parce que, effectivement, je vois que je coche pas mal de cases de ce trouble. Est-ce qu'on pourrait faire un diagnostic en même temps? Et il m'a posé plein de questions. Il a dit oui, en effet, là, on va clairement faire le diagnostic. Mm-hmm. Et c'est revenu positif. Donc, ça a été en même temps. Un soulagement de se dire « Ok, bon, je struggle, mais pas pour rien. »
Il y a une raison.
Il y a une raison, c'est normal, c'est pas de mon fait, c'est pas de ma faute.
C'est quelque chose de plus fort que toi, là, on s'entend. Exactement. Peu importe, on peut mettre des stratégies en place, mais c'est plus fort que nous, le TDAH, puis on peut rien y changer. Là.
C'est ça. Donc, ça a enlevé un gros sac de culpabilité et de dire, ok, donc je suis pas dysfonctionnelle, je suis pas fainéante, je suis pas inattentive, je suis, j'ai un trouble neuro et c'est ça qui entraîne ma façon d'être, ma façon de voir les choses, de me comporter, de réfléchir, de réagir et c'est ok en fait.
Mais oui, totalement. Puis ton conjoint, c'est par la suite aussi qu'il a eu son diagnostic?
Non, en fait, il n'a pas eu de diagnostic et il n'en a toujours pas. Mais lui, depuis qu'il est enfant, tout le monde le sait, lui-même le sait, ses parents le savent et ça n'a jamais été un sujet, vraiment.
Ça ne cause pas de problème. Donc, il ne ressent pas le besoin d'avoir le diagnostic pur et dur.
Pas du tout, parce que... son hyper-focus, il en a fait une force.
Mm-hmm.
Et c'est dans son travail et il excelle dans ce qu'il fait. Et il a trouvé la manière et les stratégies par lui-même pour accéder à ce qu'il voulait. Et ça se passe très bien pour lui comme ça. Donc, lui, il n'en a pas l'utilité, il n'en ressent pas le besoin. Et c'est
mais okay. T'sais, le diagnostic peut aider, j'en parle souvent dans les épisodes, mais ça peut aider à justement se sentir moins seul, se comprendre, dire « Ok, c'est pas moi qui est paresseux, qui est ici, qui est ça, il y a une explication. » Mais suite au diagnostic, t'sais, ça fait pas tout. Un peu comme la médication, ce que je dis souvent, t'sais, après ça, il faut mettre des stratégies en place, il faut l'accepter, il faut se comprendre. Il y a un autre travail là, qui est en fait le plus gros travail qui vient par la suite. Donc, si lui, il a passé par les stratégies tout de suite, ben tant mieux.
Oui, moi c'est, ça a été après le diagnostic. Effectivement, il s'est posé tout un tas de questions sur est-ce qu'on fait la médication, est-ce que non, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que...
Oui. Puis les questions peuvent aller vite dans notre tête quand on a un TDAH.
Ça spin très vite, effectivement, déjà de base, mais quand en plus on est face à un diagnostic qui entraîne des changements à la suite, ça fait spinner encore plus vite. Et puis, il y avait aussi le fait que j'avais et j'ai toujours des enfants et ça a aussi ouvert la voie sur le diagnostic de mon plus grand et sur des questionnements sur la génétique et sur qu'est-ce que ça va donner après. Et c'était dans ma tête un peu « Oh mon Dieu, ok, bon. » Alors moi c'est avéré, c'est le TDAH, ça va se gérer, je suis adulte, je vais savoir dealer avec et puis je m'en suis sortie jusqu'à 29 ans, donc c'est pas maintenant que ça va pas le faire, on va mettre tout en place. Et après, j'ai pris le gros coup de massue parce que je me suis dit, mais attends, tu struggles avec tout ce que tu as à faire toi, avec ton organisation et organiser la vie d'une famille. Et en plus, tu vas devoir organiser la prise en charge d'un ou de deux enfants TDAH, en plus de toi et de ton compagnon. Ok, bon, on va s'asseoir 5 minutes, on va souffler un coup avant de s'y mettre, parce que voilà, ça faisait peur, ça fait toujours un peu peur, mais jusqu'à maintenant, bon, les choses se suivent et se mettent en place.
En tant que mère, on veut protéger notre enfant, on veut ce qui arrive le mieux, puis qu'il y ait le moins de difficultés. Donc, tu sais, j'imagine vous avez dû vous poser beaucoup de questions sur la médication. Là, il est encore jeune, mais est-ce qu'il prend médicaments? Est-ce que, tu sais, accompagnement, tu sais, ça va venir, j'imagine, te dire avec les rendez-vous. Mais ça doit être quand même beaucoup de questions, là. Puis j'imagine déjà être mère, ça doit avoir tellement de questions. Donc là, ça, c'est un lot de plus.
Exactement. Et puis, mère avec le TDAH, en plus, tu le disais précédemment, de l'anxiété de performance, où déjà, en étant mère, on veut être une bonne mère, mais avec le TDAH, en plus, on veut être la meilleure des bonnes mères et protéger nos enfants et faire en sorte qu'ils soient bien. Et ayant été diagnostiquée super tard et en ayant un peu souffert, au final, quand on regarde vers l'arrière, je veux pas ça pour eux et je veux faire en sorte qu'ils soient pris en charge au mieux. Et donc, ça rajoute de la charge sur le cerveau. Et...
Ça, c'est sûr. Mais je pense que quand on est diagnostiqué jeune puis qu'on vit avec ça, c'est encore plus facile de le comprendre. T'sais, moi, j'ai été diagnostiquée très, très jeune. Fait que ça m'a permis de grandir avec ça. Même si oui, j'ai grandi en me disant « je suis vraiment différente des autres », ça m'a permis de tellement le comprendre puis d'arriver justement à un âge où les gens commencent à essayer de le comprendre. Moi, je le comprenais bien, puis je le disais bien. Donc, c'est sûr qu'il va avoir le temps de se mettre des stratégies, ça, c'est sûr. Là.
C'est certain.
Puis je pense qu'en ayant des parents qui ont un TDAH, ça fait aussi que tu te sens compris, tu te sens pas seul. Tu le sais que dans ta famille, c'est ça la normalité, donc tu te sens peut-être moins le mouton noir. Là.
Clairement. Et puis, on le sait que les neuroatypiques attirent aussi les neuroatypiques et notre famille, elle en est un exemple. Parce que c'est vrai qu'on est dans des neuroatypies tous et que notre nouvelle jeune fille au père est elle aussi TDAH. Okay. Donc, c'est vraiment... on baigne dedans et c'est pas plus mal parce que tout le monde se comprend. Et on a eu aussi une autre jeune au pair pendant l'été avec qui ça s'est passé différemment parce qu'elle est neurotypique. Et on sentait qu'il y avait comme... je dirais pas une fracture, mais comme une différence de compréhension qu'on avait pu avoir avec Maeve et qu'on a aujourd'hui avec Destiny, où... il y a une compréhension des moments d'overwhelming et des moments où j'ai besoin, moi, de souffler et où il faut prendre le relais et de comment on fonctionne avec nos enfants et qu'on essaye de communiquer avec eux, mais pas trop parce que sinon, ça sert à rien et que, bah, des fois, oui, ça crie dans la maison parce que bah, tout le monde est à bout et que on n'a plus personne à de ressources et ouais, non, c'est...
Oui, c'est quelque chose qui est très, je ne veux pas dire important, mais dans le sens où, qui est quand même important à comprendre dans le TDAH, le overwhelming, parce qu'il n'y a pas d'explication à ça. Il n'y a pas toujours d'explication à grand-chose dans le TDAH, mais c'est le sûr. Overwhelming, sans raison, tu peux passer une super belle journée, avoir bien dormi, mais sans raison, arriver, puis là, te sentir overwhelmed, comme ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, moi, je m'en suis au début avec mon conjoint, quand je disais « je suis overwhelmed », puis il me disait « ben qu'est-ce qu'il y a plein de gens qui essaient de me poser des questions », puis ça me faisait virer, tu sais, comme encore plus folle, entre guillemets, qu'il me pose des questions, parce que j'étais comme « arrête, mon cerveau est plus capable d'en prendre ». Fait que, tu sais, quelqu'un qui est pas habitué à comprendre ça, maintenant, ça va avec les années, mais, tu sais, quelqu'un qui arrive là-dedans, que c'est nouveau, puis je comprends la réalité des neurotypiques, de dire « ah, mais ça va pas, qu'est-ce qu'il y a », puis de poser des questions, puis toi, t'es comme « non, arrête, je veux juste arrêter de réfléchir 2 secondes ». Puis là, ton cerveau, plus tu te fais parler, on dirait, plus ça explose, là. Donc, c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui comprend les neurodivergences, ça l'aide vraiment. Sans en vivre, je pense, les comprendre aussi, là, c'est sûr que ça l'aide vraiment beaucoup, là.
Oui, puis on se sent soutenu, on se sent compris, ça fait du bien, et on se sent autorisé finalement, à prendre du recul sur les situations Et dans des cas d'overwhelming, effectivement, moi je sais que la fin de journée c'est toujours compliqué parce que j'ai travaillé la journée et je me suis levée tôt et j'ai pas forcément suffisamment dormi et et je me suis occupée d'autres personnes depuis que je suis réveillée, etc. Et oui, en fin de journée, tout mis bout à bout. Et les enfants qui crient, et le chien qui aboie, et mince, qu'est-ce qu'on va souper, et etc. C'est comme si mon cerveau il se mettait sur off, et la moindre chose peut me faire exploser. Soit je vais me mettre à crier, soit je vais être désagréable. Mais avec le diagnostic, j'ai appris aussi à repérer avant l'explosion que, ok, donc là, ça va pas, j'arrive plus à rien, et à communiquer là-dessus, principalement avec mon conjoint, qui faisait souvent les frais de mes explosions, de lui dire, écoute, là, arrête de me chicaner, c'est pas le moment, parce qu'il a ce truc aussi, où quand il sent que je suis épinée, lui, il aime bien appuyer sur, sur mes boutons. Et maintenant, je suis capable, et lui aussi est capable de dire, ok, là, ça me trigger vraiment, et faut arrêter, parce que sinon, ça va péter et j'ai besoin de 5 minutes de silence et j'ai besoin de que tout le monde la ferme.
D'avoir un moment avec toi, c'est ça.
Et non, je veux pas un câlin là, je veux juste pas que tu me touches, je veux pas que le chien il aboie. Je veux me poser et doom scroller mon téléphone pour 5 minutes. Le temps que
reset un peu. Là. Moi, j'ai dit souvent, on dirait qu'on aurait besoin d'un bouton reset. Là. Je veux dire, j'ai besoin que tout est passé, mais si les gens continuent à te parler ou t'es stimulé, ça ne fonctionne pas. Là.
Voilà.
Ça doit être quelque chose quand même de gérer tout ce côté-là overwhelming en gérant, ben déjà, point un enfant, on s'entend, mais un enfant qui a aussi ces mêmes traits-là. Là. Donc, tu sais, on le sait, avec le TDAH, il y a beaucoup d'impulsivité, tu sais, dans l'hyperactivité. Comment on gère cette impulsivité-là avec un enfant qui est impulsif aussi?
Ben, on en chie, voilà. Non, mais clairement, voilà, il n'y a pas de recette. Et oui, déjà, de base, un enfant, c'est pas du tout mature émotionnellement. Non. Et toutes les émotions, elles sont mélangées. Donc, le fait de les reconnaître déjà dans un premier temps, ça demande du temps. Et une fois qu'on les a reconnues et qu'on arrive à mettre un mot dessus, savoir les traiter, je voudrais dire correctement, mais c'est pas vraiment le mot que je voudrais utiliser, de manière socialement acceptable, c'est encore autre chose. Et quand nous, adultes, on a du mal à se réguler déjà, aider un enfant immature et en plus neuroatypique à se réguler...
C'est un défi.
c'est un défi. Et là, c'est là que je remercie aussi, entre guillemets, le TDAH aussi, parce que j'ai eu cet hyper-focus de... Ok, donc comment ça marche le cerveau des enfants et comment ça marche les émotions et comment... on fait pour réguler les trucs et j'ai une bibliothèque pleine de livres sur les neurosciences affectives et sociales et sur le cerveau des enfants et sur tout ça pour justement m'aider à me comprendre moi-même, à comprendre leur cerveau et après à trouver des trucs de se dire ok bon là il est en train de péter les plombs, est-ce que c'est parce qu'il est overwhelmed? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des trucs à l'école? Est-ce que c'est parce que je suis sa figure d'attachement? Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce que c'est parce qu'il a soif? Et au fur et à mesure, on arrive à repérer les choses et à trouver
des petits trucs. Et surtout à un âge où il n'est peut-être pas encore capable de nommer tout ce qui se passe lui-même. Là, il va venir dans quelques années où il va peut-être pouvoir le dire, mais c'est sûr que là, c'est peut-être difficile lui-même de se comprendre. Il doit se poser beaucoup de questions lui-même dans sa tête. Est-ce qu'il le sait qu'il a un TDAH? Est-ce qu'il comprend ou c'est encore trop tôt?
Alors oui et non, c'est encore un peu tôt. J'essaye de lui expliquer avec des mots simples. Je lui dis, voilà, ton cerveau, il est comme le mien, il est différent. Il n'est pas moins bien, il n'est pas mieux, il est juste différent et il marche différemment. Donc, on a besoin de trouver des solutions et de faire des choses pour que ça marche pour tout le monde. Et pour ça, ça veut dire qu'on doit communiquer. Et il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on a dû, entre guillemets, mettre le cadre vraiment basique Et de lâcher sur plein d'autres choses parce que ça servait à rien.
C'était chaque chose en son temps aussi.
Voilà, c'était vraiment se mettre des bâtons dans les roues finalement, de vouloir coller aux attendus sociaux de la société, alors que ça ne correspondait pas du tout à nous et à nos enfants finalement. Donc, on a mis les choses au clair et petit à petit, on trouve vraiment l'équilibre au fur et à mesure. Et on voit les bénéfices aussi parce qu'on a un enfant de 5 ans qui commence des fois à dire « c'est tout emmêlé dans ma tête, ça va pas, je vais dans ma chambre » ou qui aide même son petit frère parfois à réguler ses propres émotions. Et c'était il y a quelques jours vraiment où le petit, 2 ans et demi, qui commençait à lancer un tantrum... Et son grand frère lui a dit « Non, mais là, ce que tu fais, ça va pas. Regarde, tu peux prendre ce doudou et lui faire un gros câlin et prendre ce papier, en faire une boule et la lancer par terre. Et tu peux regarder cette petite bouteille avec cette petite bouteille sensorielle là et tu peux respirer et la regarder redescendre les petites bulles dedans et taper, c'est interdit et ça sert à rien. Et si tu le fais, ça va me rendre triste et tout. » Et j'étais comme « Ok, donc ça fonctionne et on fait pas de la merde et c'est cool. »
Wow, vraiment. Tu sais qu'à 5 ans, qui est capable, lui, d'avoir ce raisonnement-là puis d'essayer de l'expliquer à son frère, c'est quand même quelque chose. Là.
Et j'étais là, j'étais comme « Ok, bah, tu sais quoi, je suis très fière de toi, là. » Oui, et vraiment. Bravo. 5 minutes après, c'était aussi, tout à fait clairement. Autre chose, mais,
oui, c'est
mais
ça,
on avance.
Mais clairement, c'est que vous prenez le temps de bien lui expliquer pour qu'il soit capable de bien le comprendre, puis lui aussi de le verbaliser.
Et puis ça facilite pour nous aussi. Et la meilleure façon, ça reste l'imitation. Les enfants, ils apprennent par imitation. Et moi, j'ai appris à parler avec eux, en fait. Et de leur dire, là, ça va pas. C'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne. J'ai eu une journée longue, je suis fatiguée et j'ai plus de patience. Donc là, j'ai besoin que vous jouiez en silence, parce que sinon, je vais péter les plombs et ça va être désagréable pour vous et désagréable pour moi. Et de savoir aussi s'excuser quand on fait pas bien. Et au final, ça rentre et tout le monde y trouve son compte. C'est...
Wow, voilà. Vraiment.
Mais c'est hyper dur.
C'est sûr. Je pense qu'être parent point, c'est pas facile, mais là, c'est un autre lot de défis TDAH et avec des enfants TDAH. Puis justement, tu sais, pour les mères ou tu sais, même les papas, tu sais, les gens qui... Mais on parle un peu plus des mères parce que c'est eux qui ont les plus longs congés de maternité. Tu sais, est-ce que tu aurais, tu sais, maintenant avec du recul, des trucs à donner aux mamans qui vont avoir un congé de maternité ou qui débutent pour essayer de rester zen le plus possible ou essayer de rester le plus enlignée avec elles-mêmes?
Alors, dans un premier temps, pas se mettre de pression. Alors, je sais que c'est très facile à dire et c'est plus dur à faire, mais essayer un maximum de couper les réseaux sociaux et d'essayer de correspondre à une image d'Épinal de la maman parfaite en congé maternité, parce que, spoiler alert, c'est pas possible. Ça existe pas, c'est pas pour de vrai. Se mettre le moins de pression possible et avoir le moins d'attendu vers soi-même. Si tu manges du surgelé pendant un mois et demi, tu manges du surgelé pendant un mois et demi. C'est ok de dormir avec ton bébé, c'est ok de pas dormir avec ton bébé, c'est ok que ta maison ce soit le bordel, c'est ok de faire appel à quelqu'un pour faire ton ménage. Et surtout, le truc, faut demander de l'aide. Faut pas avoir honte de demander à être aidé, que ce soit par ton conjoint, que ce soit par tes parents, par tes beaux-parents, par tes voisins, par tes amis, par des associations, parce qu'il y a aussi des associations. Et déjà, le postpartum, c'est extrêmement difficile, mais quand en plus, tu as un TDAH par-dessus, c'est la double peine, vraiment. Parce que après l'accouchement, tu vas être fatigué, tu vas pas dormir parce que ton bébé, il va pas dormir, tu as quelqu'un qui compte sur toi 24 heures sur 24, t'as les hormones qui chutent il faut demander de l'aide et c'est OK, on a tous besoin d'aide. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais c'est vrai en fait, vraiment. Il y a besoin d'être entouré, d'être accompagné, d'avoir des gens avec toi, et encore plus quand tu as le TDAH, d'avoir des gens qui vont être ton cerveau en fait. Des gens qui sauront avant la naissance que, OK, il va falloir qu'on aide et qu'on organise les choses pour que toi, ton cerveau, il puisse être uniquement sur ton bébé. Parce que c'est ça que t'as besoin. Parce que l'arrivée d'un bébé, c'est aussi plein de trucs bien, c'est plein d'ocytocine. Et ça, pour le TDAH, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Et la dopamine et la sérotonine arrivent aussi avec l'arrivée du bébé. Donc, s'il y a quelqu'un ou des gens autour de toi pour être ton cerveau, c'est-à-dire gérer la logistique, bah là, c'est tout gagné, en fait. Ouais, et moi, c'est ça que j'ai pas fait. C'est ça que j'ai pas fait. J'ai voulu être parfaite et j'ai pas su demander de l'aide et j'ai pas su l'accepter quand on me l'a proposé. Et elle a été là mon erreur et c'est ce qui a amené à mon burn-out. Donc, ouais, préparer à manger avant et avoir le congélateur plein de nourriture. Ne pas hésiter à dire aux gens qu'on veut pas avoir des visites aussi pour pas avoir d'overwhelming. Recevoir que des gens en qui on a confiance et de leur dire en amont, écoute, voilà, j'ai avoir besoin que tu gères ma logistique. Donc, quelqu'un qui vient laver ton linge, quelqu'un qui vient te faire le ménage à la maison, quelqu'un qui vient, à la limite, te préparer le repas et te l'apporter. Vraiment, ça dépend de qui t'y a autour de toi, de tes moyens, de la faisabilité des choses, mais soit ton conjoint ou tes beaux-parents, tes parents, des amis, une association... Une femme de ménage, c'est important. Et si tu mets ça en place avant, après...
Ça va aider.
Vraiment plus facile. Et ouais, demander du relais. Même avec des enfants plus grands, parce que moi, j'avais un enfant plus grand. Et on s'est retrouvés dans une spirale infernale à gérer tout le monde. Donc, ouais...
Je pense que le truc, ce que j'entends, c'est vraiment accepter qu'on a besoin d'aide et pas avoir peur de demander de l'aide. Là. Puis,
c'est ça.
Comme tu dis, il n'y a personne qui peut faire tout seul, puis c'est de l'accepter. Là. C'est pas, ça ne fait pas de toi une moins bonne mère si tu as quelqu'un qui vient t'aider à faire X, Y.
C'est ça. Et puis, une maman qui va bien, ça fait des enfants qui vont bien. Donc, si toi, pour que tu ailles bien, il faut que y ait quelqu'un qui te lave tes culottes et qu'il y ait quelqu'un qui te fasse à manger... Eh bien, go for it, en fait.
Ça va être mieux pour tout le monde, au final.
Ça va être mieux pour tout le monde, au final. Parce que toi, tu seras détendu, tu seras bien, et tu seras une bien meilleure maman pour tes enfants. Parce que tes enfants, ils vont se rappeler toute leur vie des câlins que tu leur as donnés et de l'attention que tu as eu pour eux en étant détendu. Et ils se rappelleront pas que c'est la voisine qui a lavé leur slip et que vous avez mangé des lasagnes surgelées pendant 3 mois à l'affilée. Et voilà.
Non, c'est ça. Puis j'imagine aussi, tu veux pas avec le TDAH, je le dis souvent, mais on a beaucoup besoin de routine. On n'est pas vraiment des gens qui aiment la routine, mais on est des gens qui en ont besoin. Puis veux pas en congé de maternité, ben on perd complètement la routine qu'on connaît. Comment on fait pour essayer justement de se créer une nouvelle routine dans un monde où c'est difficile d'avoir une routine parce qu'un bébé ne va pas se réveiller nécessairement aux mêmes heures, avoir les mêmes besoins tout le temps. Comment on garde le cap là-dedans?
Alors ça, c'est la question à 100 000 parce que c'est pas vraiment possible de garder le cap et la routine par rapport à tout ça parce que effectivement, un bébé, quand il arrive, il a des besoins. Et c'est pas sur l'horaire, vraiment. Il n'est pas sur l'horloge. Donc, tu peux pas te mettre vraiment des routines en place à heure fixe. Mais au bout d'un certain temps, une fois que tu commences à faire connaissance avec ton bébé, je dirais au bout d'un mois, prendre un mois pour soi, qu'on appelle aussi le mois d'or, pour faire connaissance avec ton bébé et tisser le lien et pas faire grand-chose. Ça aide à se connaître et après, tu as les rituels qui commencent à se mettre en place et ta routine, elle revient. De OK, bon, là, il a pris la tétée et c'est bon, il va être OK pendant tant de temps, donc je peux aller me laver aujourd'hui. Et après, ça se met en place petit à petit, mais par contre, faut être au fait que la routine, elle va changer régulièrement pendant les premières années des enfants parce que leurs besoins, ils évoluent et leur routine à eux, elles évoluent aussi. Donc, c'est go with the flow, en fait. C'est s'adapter au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment de...
C'est ça, être capable de... accepter, encore une fois, j'entends beaucoup d'acceptation depuis le début, là. Accepter que les choses changent, accepter que la routine va évoluer. C'est sûr que c'est quand même un gros défi pour tout le monde, mais aussi avec le TDAH, là, de tous ces changements-là, là, quand on a envie depuis très jeune. Là.
C'est ça. Et surtout, il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi médicalement, parce que déjà, à la base, le postpartum, c'est très difficile et ça engendre des dépressions du postpartum.
Oui.
Et quand, en plus, on a des neuroatypies comme le TDAH, les dépressions, c'est une comorbidité du TDAH, donc on est encore plus sujette à ça. Donc, il faut être vigilant. Il faut que les entourages soient vigilants aussi.
Mm-hmm.
Si vous avez une femme en postpartum autour de vous qui est en plus TDAH, chouchoutez-la encore plus et faites en sorte de voir si elle va bien et posez la question plusieurs fois. Parce que au début, certes, on n'osera pas dire que ça va pas, mais faut savoir se dire aussi que, ouais, être à l'écoute des siens et de soi-même et de savoir dire, OK, bon, ben là, c'est pas normal de pleurer tous les jours et c'est pas normal d'être fatigué même quand on dort et c'est pas normal d'être épuisé comme ça et c'est OK de voir un psychiatre et un psychologue et c'est OK de changer les dosages de la médication et c'est OK de changer la médication. Et ou de la prendre ou de la remettre si on ne l'avait pas. Parce que.
Mais quand on est enceinte, j'imagine qu'on ne peut pas la prendre parce que c'est quand même un médicament fort, mais je ne sais pas si on peut la prendre quand on allaite.
Alors, tout dépend du dosage, mais ça, c'est à voir avec le médecin. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire, mais il y a toujours des possibilités parce qu'il y a des molécules différentes qui sont. Adapté à la grossesse et l'allaitement. Moi, je sais que quand j'ai fait ma dépression sévère, j'allaitais toujours et j'ai été sous médication, donc des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et mon psychiatre a adapté mon traitement au fait que j'allaitais encore mon bébé. Et
donc, il y a possibilité de faire les deux, tu sais, c'est pas un...
Il y a toujours possibilité de faire les deux et c'est bien ce qu'il m'a dit. Et les sages-femmes que j'ai vues me l'ont dit aussi. Que ce soit pendant la grossesse, pendant le postpartum, pendant l'allaitement, il y a toujours moyen de mettre en place de la médication pour aider. Et même si parfois il peut y avoir un micro-impact sur le bébé, l'impact de la médication sera toujours moindre que l'impact majeur d'une dépression ou d'addiction autre ou même trigger warning, mais... Le suicide maternel, c'est la première cause de mortalité chez les mères. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être accompagné, de prendre la médication. Il y a tout ce qu'il faut par rapport à ta situation. Voilà. Je ne suis pas payée par Big Pharma, mais si tu as besoin d'une béquille, il ne faut pas hésiter à demander. Il y a toujours moyen de faire en sorte de...
Oui, ça ne fait pas de nous moins fort de prendre un médicament. Je pense que ça aussi, c'est un gros défi des TDAH d'apprendre, d'accepter qu'ils ont besoin d'un médicament, d'une pilule pour que leur cerveau fonctionne. Puis c'est correct, puis il faut l'accepter. Puis encore plus quand on vit des gros changements comme ça, comme l'arrivée d'un nouveau bébé, les hormones, le changement de routine. Donc, il n'y a pas de mal à ça, c'est sûr.
Pas du tout. Quand tu vois quelqu'un qui a une jambe cassée avec un plâtre, il va marcher avec des cannes et des béquilles et personne ne se pose de questions et lui-même ne se pose pas de questions. Je ne peux pas marcher, je vais prendre un fauteuil, je vais prendre des cannes ou je vais prendre des béquilles. Et ça va rouler comme ça. Tandis que c'est vrai qu'on a du mal encore beaucoup aujourd'hui avec la santé mentale à se dire « Ok, ben, ça va pas, ben, j'ai besoin de ça et ça va le faire. » Alors qu'on n'a pas de problème à prendre de l'ibuprofène quand on a mal à la tête.
Exactement, oui. Puis moi, je dis tout le temps, par exemple, prends un diabétique, on lui taperait pas sur les doigts. Il y a personne qui va le juger de devoir prendre de l'insuline, tu sais. Il en c'est a ça. Besoin. Ben, nous, on a besoin d'autres choses, mais c'est ça. Comme tu dis, c'est encore, encore mal vu, entre guillemets. C'est encore très jugé tout ce qui touche aux médicaments de la santé mentale. Donc, on est gêné, on sent que on pourrait le faire autrement parce qu'il y a des gens qui disent, ben, moi, j'ai été capable de le faire sans, donc tu pourrais, mais tout le monde est différent.
Tout le monde est différent, c'est sûr. Et moi, il y a ma psychologue à l'époque qui m'a suivie juste après la naissance de mon deuxième enfant et qui a été d'un superbe soutien, qui m'a dit que bah, mon cerveau, il a une chimie différente. Les personnes qui font de la dépression chronique ou alors qui ont un TDAH, ils ont une chimie cérébrale différente. Il y a des trucs qui manquent, il y a des trucs en plus. Et il faut réguler ça. C'est comme quelqu'un qui a un problème avec la thyroïde et qui a un problème d'hormones. On régule ça et personne le questionne. Donc, that's it.
Exactement, totalement. Donc, accepter puis faire ce qui est bien pour soi. Il n'y a pas personne qui sait ce qui est bien pour toi à part toi-même. Là.
C'est ça.
Puis si, en terminant justement, qu'est-ce qui te rend fière d'avoir un TDAH?
Ce qui me rend fière d'avoir un TDAH, ben, d'être capable de le comprendre et de comprendre mes enfants, et puis de pouvoir compter parfois sur mes moments d'hyper-focus pour, pour pouvoir faire plein de choses et d'avoir cette capacité de compréhension super rapide. Et ça, c'est un peu la fierté, et d'être différente des autres. Et ouais, voilà. Même super. Si c'est dur.
C'est pas toujours facile, mais comme tu as dit, le hyper-focus, c'est quelque chose, je pense qu'entre TDAH, on se comprend que ça peut être quelque chose de très bénéfique pour nous, là, quand on arrive à bien le maîtriser, là, évidemment.
C'est ça.
Et le comprendre. Oui. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Je suis sûre que les gens vont adorer l'épisode. Puis, comment ça s'est passé d'être derrière cette fois?
Merci de m'avoir reçue. Et comment c'était? C'était comme une conversation avec quelqu'un que je connais déjà et simplement parler comme je le fais régulièrement. Donc, ça n'a rien changé de mes habitudes, mais c'était super intéressant et j'espère que ça va servir à certaines personnes.
Je suis certaine que oui, à différents niveaux, autant les gens qui ont des enfants qui vont en avoir, que même les gens qui n'ont pas d'enfants, je pense que d'apprendre à s'accepter un peu plus, de se comprendre, puis de demander de l'aide, tu sais, qu'on soit mère ou pas, de demander de l'aide quand ça va pas bien, quand on sent qu'on est à bout, overwhelmed, peu importe, c'est important.
Et prendre soin des gens autour de soi, parce que même quand on n'a pas d'enfants, les gens autour de vous qui ont des enfants, ils sont en train de galérer. Donc, leur offrez pas des doudous et tout ça. Offrez-leur un plat surgelé.
Ouais.
Offrez-leur
une soirée de gardiennage.
Une soirée de gardiennage ou du ménage chez eux. Ou venez chez eux, faites de la lessive ou faites du ménage. Et ça, c'est des cadeaux géniaux.
Excellent. C'est encore mieux que jouer.
Ah! Mille fois mieux.
Oui, totalement. Mais je te remercie beaucoup. Puis, pour les auditeurs, on se reparle dans un prochain épisode. Merci.